RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Accompagné de Roland Courbis et de Ludovic Obraniak, on vous rappelle les résultats de ce vendredi 25e journée de Ligue 1. Nîmes s'est imposé 2-0 face à Dijon. On vous attend, supporters des Crocos et du DFCO, 32-16. Et puis ce soir, ça vient de se terminer il y a quelques minutes, Lyon a battu Guingamp 2-1, 4 jours de son 8e de finale de Ligue des Champions face au Barça. L'OL qui est 3e avec 6 points d'avance sur Saint-Etienne qui revient à 3 points du LOSC. Et puis Guingamp qui est dernier avec 14 petits points. Guingamp qui a 4 points de retard sur le stade Malherbe de Caen. Tiens, on va accueillir justement Louis qui est supporter de Guingamp et qui nous a appelé au 32-16. Salut Louis.
Bonsoir.
Salut Louis.
Salut Louis.
Bon, comment ça va Louis?
Bon, ça va. Bon, ben, aujourd'hui, prendre des points, ça aurait été un peu un exploit face à une équipe de Lyon qui prépare Barcelone quand même. Et d'ailleurs, on a vu en première mi-temps, on a été un peu bousculé. Mais après, on a repris un peu de force et puis on a eu des belles actions qui ont permis d'égaliser et puis arriver ce but phénoménal de Fekir qui, et en deuxième mi-temps, ben, on s'est remis dedans et on a cru jusqu'à la fin. Puis, comme toutes les équipes classées dernières, il y a la transversale qui sauve Lyon à dernière seconde.
T'es pas un peu frustré justement quand tu les vois jouer comme ça face à Lyon?
Si, parce que comme souvent on va pas dire qu'on mérite pas de perdre, puis on a des actions où on fait preuve de maladresse ou bien on trouve la transversale ou quelques détails
ça ressemble à une saison qui a mal démarré avec ses 5 défaites. Et que même s'il y a eu des améliorations, tu as du mal quand même après à faire une série. Quand tu vois aussi cette histoire, parce que j'appelle ça une histoire du 9-0 qui te massacre le goal à verrage, c'est inexplicable. Et c'est inexplicable aussi que tu gagnes au parc avec 3 pénaltys. Donc il y a des choses sur la saison de Guingamp qui sont vraiment incompréhensibles.
Ben, je pense que Paris a voulu nous faire payer la défaite coupe et ils l'ont bien fait.
Ouais.
Vous avez encore l'espoir pour Guingamp ou pas, les gars, vous? Toi, tiens, Louis, toi, tu crois encore au maintien ou pas?
Mais oui, parce que, en fin de compte, là, c'est vrai que ces 5-6 derniers matchs, on a rencontré des équipes de haut tableau. On a joué Paris, on a joué Lille, on a joué Saint-Etienne, on a joué Rennes en match de retard. Et à part Rennes qu'on a battu, on n'a pas été, par la défaite aussi bien sûr du Parc des Princes, on a tenu contre Lille, on est battu avant jouant, en les tenant bien pendant un bon moment. Donc il y a encore de l'espoir, surtout que maintenant notre championnat va commencer maintenant en recevant Angers, jouant Nantes, les équipes qui sont juste devant nous aussi, hein. Caen qu'on a à recevoir, Dijon, Amiens aussi, donc il y a toujours de l'espoir. Tant que mathématiquement rien n'est fait, il faut toujours avoir l'espoir.
Absolument.
Ludo,
qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une équipe, là, sur le match d'aujourd'hui, on part du principe que tu vas jouer à Lyon quand tu es dernier, c'est déjà pas facile. Mais cette équipe, je peux pas lui reprocher, elle est valeureuse, elle bataille, c'est difficile, mais force est de constater que la chance, comme l'a dit notre auditeur, est pas forcément de ton côté, parce que quand tu es derrière, comme ça, je l'ai vécu moi avec Metz, eh ben, la série noire, elle s'accumule, elle se prolonge, le but contre ton camp, celui que tu vas rater la dernière minute.
Et les deux buts de Lyon, c'est deux buts extraordinaires.
Exactement.
Des frappes de malade.
Il y a un virage très important qui arrive là, c'est-à-dire que Guingamp va jouer contre 5 équipes qui sont classées plus ou moins dans la deuxième partie de tableau. Ça va se jouer là, et dans les confrontations directes, forcément, avec Dijon et les équipes qui sont juste classées devant. Mais il faut, si Guingamp peut espérer ne serait-ce qu'une place de barragiste, ça sera déjà miraculeux.
Je pense que si tu leur proposais ce soir, ils seraient d'accord.
Ouais. On remercie Louis, en tout cas, supporter de Guingamp, qui nous a appelé au 32-16. Et puis, on vous l'a promis. Édouard G a rencontré Bernard Lacombe, le conseiller du président Jean-Michel Aulas, du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors, Doudou lui a demandé ce qu'il pensait des critiques dont Bruno Genesio est la cible, notamment sur les réseaux sociaux. Réponse de Bernard Lacombe.
Mais les supporters, ils arrivent, ils viennent, et ils commencent à dénigrer parce qu'il y a Pierre, Paul ou Jacques qui jouent pas. Mais comment ces gens-là, qui ont aucune compétence, peuvent-ils se permettre de venir le jour du match s'asseoir comme ça et donner des avis? Déjà, quand tu es dans la tribune, que tu as été joueur, tu as plein de choses que tu vois, mais toi, tu peux voir ces choses-là parce que tu les as vécues un moment. Eux, ils ont vécu quoi? À part jouer en promotion de district dans la région, c'est tout ce qu'ils ont fait.
Voilà, il attaque sévère Bernard Lacombe. Alors, il y a beaucoup de supporters de l'OL, hein, d'ailleurs, qui réagissent à ça. Alors, sur les réseaux sociaux, oui, il y en a beaucoup qui appellent déjà au 32-16 également. Qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations, vous?
Ben, je crois qu'il défend Bruno Genesio. Et défendre Bruno Genesio, ça me paraît être tout à fait logique, parce que malgré les résultats, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune amélioration entre la sympathie des supporters, enfin de pas tous, mais d'une partie des supporters pour Bruno. C'est quand même difficile. Alors après, que un supporter puisse parler de la composition d'équipe, mettre lui plutôt que
c'est
lui,
ça
fait partie de ça fait partie des commentaires que le football apporte.
Si je me place du côté de Bernard Lacombe, c'est-à-dire en tant qu'ancien joueur, connaissance du football, qu'il est ayant pratiqué, c'est quelque chose que tu peux te dire dans ta tête. Mais pour moi, j'ai toujours appris, j'ai des gens qui sont autour de moi, qui sont des commerçants, et je pense que c'est une règle qui s'applique aussi dans le football, le client est roi. À un moment donné, le supporter, il est aussi, on est là grâce à eux aussi. C'est-à-dire que quand tu le vois, les matchs à huis clos, c'est d'un ennui mortel. Donc, c'est pas parce que t'es supporter de football que tu peux pas avoir un avis sur le football. Je comprends que Bernard Lacombe est quelqu'un de compétent qui a une grande carrière, mais on peut aussi se mettre à la place des supporters qui, depuis des années, ont mangé du caviar du côté de Lyon avec des années fastes de Ligue des Champions, de grands matchs. Et quand tu reviens à des choses un peu plus, quand tu rentres un peu plus dans le rang, forcément, il y a des écarts de génération aussi avec des gens qui ont connu les années fastes, qui ont raconté à leurs enfants, il y a une frustration sur cette génération de ne pas avoir connu ça et de se contenter entre guillemets que de ce qu'ils voient en ce moment.
Non mais l'argument dû être un spécialiste ou du truc. Pardon, mais c'est pas recevable.
Non, c'est pas recevable.
Dans ce cas-là, faut parler
pas...
politique.
Non, c'est pas
si
recevable.
Si t'as pas été élu, donc t'as pas le droit de parler de politique aussi, c'est ça, non? Non, mais c'est un peu bizarre comme argument.
Je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire. C'est frustrant quand toi, tu bosses au quotidien, que tu vois les gens, que tu vois les joueurs, tu sens l'atmosphère, tu sens le feeling, t'es au contact du groupe. Les supporters, ils sont pas toujours au contact d'un groupe. Mais le supporter, il a le droit aussi d'avoir un avis. C'est le supporter, c'est celui qui fait vivre le club.
Oui, mais je pense que Bernard là, a les boules des critiques de Genesio. Ouais. Et après, il enchaîne aussi l'air de dire, bon, et en plus, c'est eux qui critiquent. Ouais. Là, voilà, mais c'est surtout au départ les critiques de Genesio qui le mettent en colère.
Tiens, on va accueillir Damien, supporter de l'OL, justement, qui nous a appelé au 32-16. Damien qui, d'ailleurs, je crois, sort du stade. Il a assisté à cette victoire de Lyon 2-1 face à Guingamp. Salut, Damien.
Ouais, salut.
Salut, Damien.
Voilà. Salut, Damien. Alors, Damien, comment tu réagis aux réactions, toi, de Lacombe, justement?
Ben, Lacombe, moi, je suis fan, hein, je suis supporter aussi. Depuis plusieurs années, je suis abonné. Donc, ce qu'il peut dire, il n'y a pas de problème. Après, moi, la seule chose que j'aimerais voir par rapport à ce qu'il dit de l'intérieur, il fait des avant-matchs phénoménales, il fait tout, et j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose pour que ça fonctionne à chaque fois. Et c'est ça, je pense, qui frustre pas mal de supporters, c'est que tout le monde nous dit que c'est qu'il est meilleur que tout le monde, enfin, pas meilleur que tout le monde, mais bon, dans ce qu'il fait, mais on n'arrive pas à le voir sur le terrain. Alors, est-ce que c'est le joueur c'est un peu le souci qu'on a, quoi.
Ouais, qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit Damien?
Je sais pas, j'ai pas tout compris.
Mais moi, il y a du bruit, là.
Ouais. Parce qu'en fait, je pense qu'il a sa radio d'allumé derrière, Damien. Mais... Non, en fait, ce que veut dire Damien, c'est en gros, on défend Genesio, et au final, lui, il voit pas trop la différence, quoi. Il n'y a pas de progression, c'est ça que veut dire Damien.
Pas de progression, mais bon, on parle justement de la Champions League. Il y a une qualification, il y a eu les matchs contre City. Et on a même l'espoir de bousculer le Barça. C'est pas une régression, ça.
Tiens, Hakim, lui aussi, nous a appelé au 32-16. Lui aussi, il sort du stade. Lui aussi, il a assisté à la victoire de l'OL ce soir demain face à Guingamp. Salut, Hakim.
Oui, bonsoir. Bonsoir, l'équipe.
Salut, Hakim.
Salut, Hakim. Alors, qu'est-ce que tu penses des déclarations de Bernard Lacombe, toi?
Moi, je trouve qu'elle est totalement justifiée, sa déclaration. Je pense que tout le monde a fait du bashing autour de Bruno Genesio, alors que... Un entraîneur, je pense, comme un joueur, il a le droit de progresser, il a le droit de s'améliorer. Et je trouve que Bruno a maintenu son équipe. Il a des égos qui sont quand même assez importants dans l'équipe, comme Memphis, comme Nabil aussi peut-être. À un moment donné, il gère des cadres, il gère des internationaux. Et Bruno, il progresse, il obtient des résultats, il remplit ses objectifs. Il maintient Lyon à flot. Et je trouve que les critiques envers cet entraîneur sont parfois injustifiées.
Non mais il faut comprendre que Bernard Lacombe, Jean-Michel Aulas ont mis l'Olympique Lyonnais est une place forte du football français aujourd'hui grâce à ces deux personnages-là. Tu dois être au-dessus de la mêlée quand t'as fait ce que tu as fait depuis tant d'années à l'Olympique Lyonnais. Tu peux avoir un peu de hauteur et te dire que finalement il y a les supporters. Aujourd'hui, on est dans un monde où les réseaux sociaux ont pris une importance capitale. Tu peux entendre énormément de choses. Comment t'expliquer ça? C'est pas parce que t'entends des trucs sur Twitter que c'est forcément le ressenti de tous les supporters lyonnais. Les supporters lyonnais, ils sont au stade depuis longtemps. Ils ont vécu des épopées. Je pense qu'ils ont un regard aujourd'hui sur leur équipe qui me paraît légitime, sur l'irrégularité, sur par rapport à certains matchs qu'on a vu cette saison où ils pourraient être en droit d'estimer.
Tiens, je te coupe juste deux secondes. On va partir derrière en direct.
Je sais que t'as bien me couper, voilà. Mais...
Martin Terrier, on y va. Ouais, Martin Terrier, on se
voit. Ouais, il n'est pas sorti de son terrier et tu me coupes drôle, quand même.
Être décisif, c'est le principal. Encore plus quand l'équipe gagne, donc c'est bien pour la confiance.
Hey, Martin Terrier en zone mixte, victoire de l'OL, hein, c'est important ce qu'il avait à dire.
Je
me pose pas forcément de questions pour le moment. C'est vrai que j'essaye de donner à chaque fois quand le coach fait appel à moi. Ce soir, ça m'a plutôt bien réussi, donc je suis très heureux.
Oh, les déclarations fortes, hein, Martin Terrier, après cette victoire 2-1 face à
Galant. N'empêche, chaque fois quand même qu'on fait appel à lui, je le trouve performant, dangereux.
Bah, il a eu un petit passage à vide, on va dire, mais
oui,
là, c'est
oui,
pas mal.
Mais bon, c'est sa première saison, hein.
À Lyon. Pour en finir avec mon raisonnement, si tu te places tu payes pour voir, le supporter paye un ticket pour voir un spectacle. On est bien d'accord par rapport à ça.
Ah ouais.
Alors certes, on n'est pas dans le théâtre mais tu peux quand même émettre à un moment donné un jugement sur le spectacle que tu viens de voir, sans dire que tu peux te placer à la place des dirigeants qui gèrent ce club, mais d'émettre un jugement parce que tu es un passionné, parce que je suis persuadé qu'il y a des supporters qu'ils soient de l'Olympique Lyonnais, de Marseille ou de Paris, qui sont des très bons connaisseurs de foot et qui ont des fois un regard objectif sur les performances de leur club. Je crois que si tu peux tenir une conversation de la sorte, en interne, s'il est avec Bruno Genesio, en disant Bruno, arrête de te casser la tête avec ça, nous, on te supporte, tu as toute notre confiance, et ceux qui parlent à côté, laisse parler, ou, voilà. De dire ça, je crois pas que ça crée à quelques jours du Barça une osmose entre le club, les supporters. On sent qu'il y a eu une fracture un peu justement par rapport au choix de cet entraîneur-là. L'objectif, il est plus de rassembler que de diviser à quelques jours d'une échéance importante.
Mais alors justement, Ludo, pardon, mais c'est pas avec des éclats comme ça que tu vas rassembler.
Ah ben non, tu divises. Voilà. C'est pour ça que je te dis.
Justement, mais Hakim,
moi, c'est pour ça que je vais pas dans ce sens-là.
Mais Hakim, justement, tu nous disais, Hakim, que t'étais plutôt d'accord avec les déclarations de Bernard Lacombe. Mais quand tu utilises le fameux argument du, en gros, nous qui avons été sur le terrain, on comprend. Et ces gars-là, ils ont joué qu'en promotion de district. Voilà, l'argument, il est pas franchement recevable,
oui,
Hakim.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, moi, j'estime qu'à partir du moment où Jean-Michel Aulas a fait ses choix forts de pouvoir maintenir un entraîneur, c'est qu'il est à même de pouvoir crédibiliser la fonction de son entraîneur et il est à même de savoir que son entraîneur, c'est un bon entraîneur. Moi, quand vous regardez, quand vous écoutez au début la présentation des joueurs, le speaker donne le prénom, le public scande le nom. Il arrive tout à la fin et vous entendez Bruno Genesio, tout simplement, et vous entendez siffler descendre du stade. Je trouve ça juste inadmissible. Moi, à chaque fois que je vais au stade, à la fin de la présentation des joueurs, quand on présente l'entraîneur, eh ben à la fois, on a le droit à des sifflets sur Bruno Genesio. Alors que c'est un entraîneur qui maintient son équipe, qui fait progresser ses joueurs, à qui on a amputé aussi des très bons joueurs. Je pense à Tolisso qui est parti au Bayern. Je pense à Lacazette qui est parti à Arsenal. Je pense aussi à beaucoup de joueurs. Umtiti qui est parti au Barça. À chaque fois, il a pu recruter et faire progresser des joueurs qui venaient d'arriver. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Terry est un nouveau joueur. Dembélé est un nouveau joueur.
Mais voilà, comment tu l'expliques alors, toi, Hakim, le fait qu'il soit hué comme ça par des supporters? C'est dû à quoi, selon toi?
Eh ben, moi, je trouve que c'est les réseaux sociaux, justement, qui sont un petit peu trop virulents. Il doit y avoir un
noyau. Non, mais d'accord, mais c'est pas pour ça qu'il se fait siffler, Hakim. Il y a peut-être des mecs qui aiment pas sa façon d'entraîner, non? Je sais pas.
Eh ben, justement, comme expliquait Bernard Lacombe, c'est peut-être des personnes qui ne connaissent vraiment pas beaucoup le foot, en fait, pour se permettre de critiquer, en fait, des choix et des systèmes tactiques. Alors, je suis d'accord, hein, le jeu de Lyon, c'est pas le plus flamboyant. On nous fait peur. Vous avez vu à la 91e minute, on se prend une barre transversale. J'étais juste derrière la cage. Je la voyais dedans, hein, dès le centre, je la voyais dedans. Il a encore des aspects, je trouve, défensifs à trouver, des améliorations. Notre jeu, il a l'air un petit peu trop prévisible. Oui, par rapport à, on n'a pas beaucoup de variations dans notre jeu. On n'a pas, c'est un jeu qui est pas trop, enfin, qui est assez stéréotypé. On garde quand même de la qualité. Après, Bruno va faire progresser son équipe, va faire progresser son jeu. Et à partir de là, je pense qu'il faut lui laisser le temps et la confiance nécessaire pour qu'il le fasse. Et pas siffler à ouais. chaque fois. Parce que, qu'est-ce que disent ces mêmes supporters-là quand Lyon gagne? Et quand Lyon gagne contre Manchester City? Quand Lyon gagne contre Paris? Qu'est-ce que ces supporters peuvent dire de Bruno Genesio?
Bah, tu sais ce qu'il dit souvent. Il y en a beaucoup qui appellent au 32-16. Ils te disent, pourquoi vous faites ça contre City, vous le faites pas contre les autres équipes, par exemple?
Oui, grâce à un tel joueur qui nous a sauvés. C'est grâce à Fekir, c'est grâce à City.
Tiens, Hakim, je te coupe, on va écouter. Hakim, je te coupe juste deux secondes. On te reprend dans quelques instants. On écoute Anthony Lopez qui est en zone mixte actuellement.
D'accord.
Qui sont extraordinaires à jouer, donc voilà, faudra répondre présent face à l'une des meilleures équipes du monde, donc voilà, faudra tout simplement répondre présent.
Est-ce que ce soir c'était difficile de ne pas avoir la tête justement à Barcelone?
Non, voilà, on s'était dit déjà durant les quelques jours précédents pour bien préparer ce match de gang, on aura le temps de penser à Barcelone après ce match-là. Voilà, c'est ça n'a pas été un grand Olympique Lyonnais ce soir, mais l'essentiel était là, avec beaucoup de réussite sur la fin surtout. Donc voilà, on va essayer de continuer d'avancer tous ensemble pour être bien prêt mardi soir.
En tant que gardien, tu t'imagines des face à face avec Messi, avec
soi-même, Anthony Lopez. C'est particulier, quoi. Réaction après la victoire demain face à Guingamp.
Moi, je vais le préparer comme d'habitude, donc. Voilà, on verra à l'instant T, on avisera au moment venu de la rencontre. Voilà, si j'aurai des opportunités face à lui, on verra. En tout cas, j'espère en avoir le moins possible. Ça veut dire qu'on a été plutôt très bon, donc voilà, en espérant que tout se passe très bien et qu'on soit très solidaire.
Allez, la réaction en direct en zone mixte d'Anthony Lopez, le gardien de l'OL qui s'est donc imposé 2-1 ce soir face à Guingamp. Hakim, juste pour finir avec toi, Hakim, en tout cas, il y a un truc qui est clair et on l'entend aussi avec toi. Enfin, le thème Genesio, le cas Genesio, il divise toujours autour les supporters de l'OL. Hein, ça, c'est clair. On vous met pas d'accord là-dessus, les mecs. Hein.
Je suis d'accord, mais à un moment donné, si vous ramenez à Ranieri, si vous ramenez à Laurent Blanc, si vous ramenez un entraîneur, on va dire côté plus par rapport à Bruno Genesio. Si ce même entraîneur obtient entre guillemets les mêmes résultats, est-ce que vous pensez clairement que les supporters vont dire oui, c'est super, c'est génial, cet entraîneur-là, c'est celui-là qu'il nous fallait, etc. Si Lyon veut progresser à un moment donné, il doit le faire aussi avec une certaine stabilité. Je pense pas que et je trouve que Bruno, pour le coup, les épaules très très fortes, parce que subir ce qu'il subit et que vous le laissez même pas, des personnes se permettent de même pas le laisser tranquille quand il va faire l'anniversaire de sa fille, etc. Qui soit aussi entre guillemets dans sa vie privée un petit peu touché et qui réussisse à garder le moral, à garder son sérieux et à garder sa crédibilité au niveau de son équipe pour maintenir les résultats que Lyon a. Et à un moment donné, je trouve que les supporters doivent se regarder un peu dans le miroir et se dire, oui, peut-être qu'on a été sévère avec lui, peut-être que ça l'a fait progresser les critiques, mais là, au jour d'aujourd'hui, je trouve pas qu'il y ait lieu de critiquer Bruno Genesio, parce que quand on gagne contre Paris, quand on gagne contre Manchester, ouais. Et j'espère contre mardi qu'on va pouvoir faire un bon résultat, j'espère que ça pourra faire, qu'est-ce qu'il faut que Bruno fasse pour fermer la bouche okay. à ses détracteurs.
C'est juste merci, ça, Hakim. En fait, ce que je me demande. Merci beaucoup, cas, Hakim. Bonne soirée à toi.
Salut,
ciao, Hakim. Tiens, on accueille Denis, alors qui est pas d'accord avec Hakim, justement, et qui est pas d'accord avec Bernard Lacombe non plus. Salut, Denis.
Bonsoir, Hakim.
Salut, Denis.
Salut, Denis.
Alors, comment t'as réagi, toi, en écoutant Bernard Lacombe, justement?
Pas très bien. Pas très bien, parce que Bernard Lacombe, certes, grand joueur, en expérience, grand monsieur du club. Pour autant, je trouve qu'il manque un petit peu de respect, là, ce soir, à tous ses supporters. Comme on a dit, quelqu'un est intervenu, effectivement, les supporters font un petit peu aujourd'hui le club, une petite partie quand même. Donc c'est un petit manque de respect. Après, derrière, je pense qu'il veut défendre son coach. C'est normal, il y allait un peu fort. Après, donc, je suis pas du tout d'accord quand même avec Hakim concernant Bruno Genesio, effectivement, c'est bien, on a des résultats contre les grosses équipes, mais je trouve que c'est normal, on a une équipe aujourd'hui qui doit être pas aussi loin que Paris, on a une très très grosse équipe, on sort des gros matchs contre les gros, il manque de la stabilité, est-ce que c'est Genesio, est-ce que c'est les joueurs, mais un coach aujourd'hui doit pouvoir mobiliser tout le monde dans tous les matchs, c'est normal que des joueurs soient motivés contre Manchester City, contre Paris. C'est ce qu'avait dit Daniel Riolo, c'est que contre Manchester City, c'était presque le match le plus simple, entre guillemets, c'est qu'il faut défendre, il faut lancer des attaques et être efficace, ça a marché,
ouais, donc tant mieux.
Mais derrière, effectivement, c'est ce qu'on attend. Moi, j'attends un coach aujourd'hui qui me permette de passer un cap. On est Lyon, on a une très grosse équipe. Enfin, aujourd'hui, de faire des matchs nuls, de perdre contre Strasbourg, de faire un match nul contre eux, de galérer. Alors aujourd'hui, contre Guingamp, bon, on n'en parle pas trop. S'il y avait des champions derrière, c'était un peu le néant en deuxième mi-temps. Mais on doit avoir quelqu'un qui nous fait passer un cap. Le mot est peut-être fort, mais c'est pas de l'amateurisme, mais j'ai envie d'un vrai professionnel qui fasse changer la dimension du club, qu'on ait un vrai gars qui change un peu tout dans le club.
Mais Denis, alors dis-moi si je me plante, Denis, mais c'est vrai que depuis la nomination de Bruno Genesio, on a l'impression qu'il y a une espèce de frustration de la part des supporters parce que c'est pas un gros nom justement Genesio. Alors, voilà, on attendait un gros. On a parlé de Ranieri pendant un moment. Tout à l'heure, et voilà, qui me disait, on a parlé de Laurent Blanc aussi. On a parlé d'autres noms d'ailleurs aussi à un moment du côté de l'Olympique Lyonnais. On dirait qu'il y a une vraie frustration chez les supporters de se dire, bah putain, on fait pas venir un mec qui est très connu finalement.
Alors, ça l'a été au début. Pour moi en tout cas, ça l'a été au début parce que on s'attendait effectivement à autre chose. Après, un gars du club, ça fait toujours plaisir. Moi, Genesio, je suis pas très fan du coach, des choix tactiques, etc. Je pense qu'il y a beaucoup mieux sur le marché. Après, aujourd'hui, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'effectivement, il a l'adhésion de son groupe, je pense. Donc, l'un dans l'autre, c'est quand même hyper important. Après, est-ce que c'est vrai que c'est pas un nom, mais c'est un gars du club. Et les gars du club, à un moment donné, si le gars n'a pas la compétence, un grand nom, en fait, si on change Genesio, il faut qu'il y ait un réel changement. Faut pas prendre n'importe qui. Un Ranieri, certes, c'est un grand nom. Aujourd'hui, le jeu qu'il prône, ça me convient pas. On a besoin de spectacle. Avec Genesio, il y a du spectacle, de temps en temps, effectivement. Mais voilà. Après, je comprends, c'est dur de trouver un grand coach qui veut venir à Lyon. Parce que certes, pour moi, c'est une grande équipe, mais derrière, certains coachs doivent se dire, je sais pas trop ce que ça peut donner à Lyon, etc. Il y a peut-être mieux à faire. Donc pour Jean-Michel Aulas, ça doit faire un petit peu compliqué de trouver un grand coach. Mais je trouve qu'on va être limité à un moment donné si on veut vraiment passer un cap. On a un stade dans quelques années, dans très peu d'années, il est fini d'être payé. Je pense qu'on peut vraiment devenir une grosse équipe. Je pense qu'il faut mettre tous les moyens et un coach, un staff. Aujourd'hui, il y a le coach, mais le staff, Gérald Batty, tout ça, ça fait pas rêver, quoi. Ça fait pas rêver.
Ok Denis, merci d'avoir été avec nous en tout cas.
Bien que contre le Barça, je pense qu'on peut faire quelque chose. Vraiment,
réponse.
Contre les gros, on peut y aller. Je pense qu'on va faire quelque chose.
Réponse mardi. Merci Denis, bonne soirée à toi.
Merci
Denis.
Merci à vous.
Salut. Salut, Denis. À bientôt Denis. On rappelle donc victoire de l'OL de Buzyn face à Guingamp. Supporter de Nîmes, supporter de Dijon. On vous attend 32-16 avec Ludo Bragnac, avec Roland Courbis. Victoire 2-0 des Crocos ce soir. Savanier Bobichon. Deux jolis buts marqués par les Crocodiles ce soir. On vous attend donc au 32-16. À tout de suite.
RMC Football Show. L'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Roland Courbis et du Ludovic Obrania, qu'on vous rappelle ce soir, victoire de Lyon de Buzyn face à Guingamp, affiche de la 25e journée de Ligue 1. Et puis Nîmes s'est imposé 2-0 face à Dijon. Savagnier a marqué le premier à la 28e, Bobichon à la 84e. Deux merveilleux buts d'ailleurs de la part des Nîmois qui sont 9e au classement. 36 points, on peut le dire, maintien quasi assuré pour les Crocos.
Ah bah oui.
Et puis Dijon qui est 17e avec 20 points, ils ont un point d'avance seulement sur le barragiste qui est Monaco pour l'instant. Et le but de Savagnier, il te met un lob là de 30 mètres là, tendu en plus.
48 mètres.
48 ?
Bah c'est ce que nous on dit aujourd'hui.
Ah, la vache. Et puis la frappe de Savagnier, elle est magnifique. Hein. Enroulée pleine Lulu. Dans la Lulu de.
Bobichon, pardon.
Ouais. De Bobby Alain. Ils sont pas mal les Nîmois là, Roland là.
Ah, extraordinaire, on les a mis d'ailleurs dans les trois points au début d'émission. Et c'est une saison fantastique. Et en plus de ça, avec, je crois, de très loin le dernier budget.
Ouais, ils ont pas beaucoup de moyens effectivement. Ouais. Ouais. Ouais, ils ont gardé l'ossature de l'équipe qui est montée.
Non, mais il faut saluer le travail de Blacard, bien sûr, parce que autant on a été enthousiasmé en regardant cette équipe, notamment en début de saison, où contre Marseille, contre Paris, ils nous ont offert des matchs de grande qualité, notamment à domicile. Ils ont eu un passage à vide où justement cet enthousiasme les a un peu pénalisés parce qu'ils se projetaient beaucoup et donc ils ont subi une période où ça a été plus compliqué.
Il y a quand même aussi, excuse-moi de couper, le flair de Laurent Boissier, qui fait un boulot de directeur sportif, là, surprenant, en toute discrétion. Et quand je vois le recrutement qui a été fait depuis plusieurs années, et que je vois cette équipe jouer, c'est une équipe qui vraiment fait plaisir à ses supporters, et on peut comprendre pourquoi.
Mais il a gardé malgré tout, malgré cette dynamique qui a été à un moment donné remise en question, il a gardé justement cette philosophie, Blacard, c'est-à-dire de garder justement la force de cette équipe qui est l'enthousiasme offensif et puis surtout la qualité de ses cadres. Quand tu as un garçon comme Briançon, tu as un garçon comme Savagnier, tu as un garçon comme Alioui, tu as...
Même Bouanga.
Et là, ils perdent
Bouanga,
l'attaquant qui venait de marquer deux buts dans ce match, Ripa.
Ouais.
Bah, ils perdent ce joueur-là, et ça m'a fait une peine. Il gagne 3-1, il marque deux buts, il se pète les croisés.
Non, mais c'est voilà, moi je parlais dans les trois points de TJ Savagnier parce qu'il pour moi il.
Non, c'est deux près, je crois, non.
Ouais, c'est moi qui je confonds.
Il a un rayonnement et il incarne parfaitement cette équipe. Et ça laisse quand même présager de belles années pour le Nîmes Olympique. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de joueur, c'est-à-dire que c'est un joueur qui, alors Dieu sait que je l'ai méprisé, hein, ce joueur, hein. J'ai joué contre lui. Honnêtement, il fait partie de
Pourquoi
ses...
tu l'as méprisé?
Ah non, mais il fait partie de ces joueurs, les casse-couilles de service là. Tu sais qui?
Ah,
il te casse les pieds sur le terrain, comme les Cyril Roll, comme les Balmont, comme tous ces types de mecs qui quand tu joues contre eux, alors dans la vie sont des garçons probablement adorables, mais qui sur le terrain, putain, te des fois ils te font sortir de tes gonds. Hein,
C'est-à-dire, il t'a dit quoi?
Wow, bah, c'est le moment de le dire. Je sais plus, mais on avait été là-bas avec Auxerre, on était déjà dans une période compliquée. Bon, quand tu vas là-bas, tu te fais tamponner, tu te fais chambrer, et il te fait sortir du match. Donc, bon, j'avais pas une amitié particulière pour lui, mais j'ai toujours trouvé que c'était un très bon joueur. Il m'avait beaucoup impressionné sur la Ligue 2. Je pensais pas qu'il avait la capacité à élever son niveau en Ligue 1. Là, il est quand même à tous les matchs. Il est régulier, il fait des passes des, il marque des buts. Il mériterait d'être à un niveau supérieur. Après, j'espère pour le Nîmes Olympique qu'ils auront les moyens ils vont rester cette année en Ligue 1. J'espère qu'ils auront les moyens de construire et de bâtir autour de lui.
Vous savez ce qu'on dit. Alors, vous connaissez ça mieux que nous tous, mais Nîmes vient de monter. Le plus dur, ça va être la saison prochaine. Bah, parce qu'il va falloir confirmer, mais surtout, il va falloir garder les bons joueurs, comme des nouveaux, quoi.
Ah, c'est sûr que c'est souvent, je dis pas toujours, souvent la deuxième année pour un promu. Ouais. Et là, mais... Je continue à leur faire confiance.
Et accueillons Cyril, supporter de Nîmes, qui nous a appelé au 32-16. Salut Cyril.
Salut.
Salut Cyril.
Salut Cyril.
Bon, ouais, pas mal là cette saison là, Cyril là.
Ah ben ouais, on vit un petit rêve. C'est magnifique ce qui nous arrive. Mais bon, on lit et on voit un peu de partout que c'est l'équipe qui procure le plus de plaisir aux gens à nous voir jouer parce que. On lâche jamais rien, on va toujours de l'avant et c'est bien pour nous, on revient dans l'élite et on y revient bien, quoi.
Est-ce que tu te mets déjà à penser à la saison prochaine, justement, Cyril, là ?
Non, pas du tout. Pour moi, il reste encore quelques matchs importants. On va recevoir Rennes la semaine prochaine. Bon, il y a Paris qui arrive, mais après, il faut prendre encore quelques points et puis on lâchera les chevaux sur la fin. Et avec cette équipe, on est capable de tout. On peut même aller choper une sixième ou une septième place, même voilà quoi. Donc, on va aller jusqu'au bout. On lâche jamais rien, Nîmes.
Est-ce qu'il y a un joueur qui te fait plus vibrer cette saison du côté Nîmes? C'est vrai que on parlait tout à l'heure de Savanier, on parlait de Bobichon. Moi, j'adore Bonga, par exemple, tu vois. Enfin, je pense que tout le monde aime un joueur dans cette équipe de Nîmes. Quand t'aimes le foot.
Tu vois, par exemple, au niveau du recrutement des choix, je trouve que penser à Ferry de Lyon et récupérer Ferry, je trouve que bonne idée. C'est une très très bonne idée. Ouais. Et je veux pas faire la comparaison avec certains milieux de la région, tu vois, Ferry Savanier, ce duo là, c'est pas mal.
On a tendance à l'oublier aussi, mais Bernardoni a pris une place prépondérante dans les résultats du Nîmes Olympique, hein.
Ouais, Cyril.
Je sais pas si vous voyez la parade qu'il fait au bout d'un moment, s'il la sort pas celle-là, à bout portant, il est quand même costaud. Et je pense que là, notre président, qui est un président visionnaire, je pense que il faut vraiment qu'il fasse l'effort pour signer des joueurs comme ça. Il faut pas, même s'il n'y a pas d'option machin, il faut à tout prix qu'on essaie de garder Bernardoni, Ferry, et avec Briançon et Savanier, si ça reste, avec les petits à la couche, ça risque de faire une grosse équipe avec un petit recrutement sympa. On peut jouer dans la cour des grands, quoi.
Ah ouais, dans la cour des grands déjà, tu t'entends quoi par là, toi?
Ben moi, je vous dis, si on arrive à assurer les trois prochains points là assez rapidement, je pense que l'équipe, elle va se lâcher et elle va proposer encore des belles choses sur le terrain et elle va aller encore plus loin que là où elle est en ce moment.
C'est vrai que je suis en train de regarder l'effectif de Nîmes, mais c'est-à-dire rien qu'en attaque, hein. Mais t'as quand même des blazes, enfin c'est même pas les blazes, okay. c'est la qualité des joueurs. Alioui, Bonga, Bozog, Tube, Baptiste Guillaume, Depré, Ripa, bon après t'as Benama, bon t'as Vlachodimos qui joue pas, mais...
C'est Depré qui...
C'est la force qu'incarnent ces équipes qui ont monté et qui arrivent à rester maintenant, qui restent dans le paysage Ligue 1 quelques temps. C'est-à-dire que l'équipe qui a réussi à accéder à la Ligue 1, ils ont gardé l'ossature, que ça soit Strasbourg, ils ont gardé des figures emblématiques où des fois t'as eu quelques clubs qui ont eu tendance à vouloir tout changer, pardon pour l'expression, mais à péter plutôt plus haut que leur cul de temps en temps. Ces équipes-là ont justement gardé ces joueurs qui ont permis de passer un palier supplémentaire en y rajoutant quelques joueurs qui avaient l'habitude et l'expérience de la Ligue 1. C'est ce qu'a fait Nîmes, en plus avec l'enthousiasme du public, et ça a créé quelque chose qui fait que Nîmes va s'installer dans le paysage de première division pendant un long moment, et c'est pas pour nous déplaire.
On remercie Cyril, supporter de Nîmes, en tout cas, qui nous a appelé au 32-16. On rappelle donc victoire des Nîmois 2-0 face à Dijon ce soir. Et Nîmes qui compte 36 points et quasiment assuré d'être maintenu en Ligue 1 cette saison. On va partir en Allemagne maintenant, les gars. Il y avait un match spectaculaire là aussi entre Augsbourg et le Bayern Munich. Match comptant pour la 22e journée de Bundesliga. On rappelle que mardi, le Bayern sera Liverpool en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Et David Lortolari est avec nous, bien sûr. Salut David.
Allô, Freunde. Salut David.
Match de taré entre Augsbourg et le Bayern. Ouais. Le Bayern qui a été mené, je crois, deux fois dans ce match.
Oui, 0-1 et 1-2.
Et qui s'impose 3-2.
Oui, alors absolument. Il y a tout de suite, je veux insister là-dessus parce que c'est l'info du soir, même si elle n'est pas encore très précise, il y a tout de suite une mauvaise nouvelle pour le Bayern, messieurs. Ah, Kingsley Coman, qui a été le meilleur joueur du match, qui a marqué deux fois et qui a été passeur décisif, a été touché à la cheville à la toute fin du match sur un mauvais geste, un contact mal maîtrisé de son adversaire direct. Cheville gauche en plus, celle où il a été déjà touché. Et donc on est un peu inquiet côté Bayern, il y aura des examens demain. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour Kingsley Coman, ces examens demain, parce que ça veut dire que il a souffert, il est sorti à la fin du match, il a pas pu entrer pour la toute dernière minute, revenir sur le terrain. Et c'est un problème évidemment pour le Bayern dans son ensemble, puisque c'était le meilleur joueur du soir. Il a marqué deux fois, le Français, et il a été passeur décisif sur le troisième but du Bayern, celui de David Alaba. Donc c'est vraiment cette mauvaise nouvelle-là qui prime ce soir.
J'ai peur qu'il se décourage et qu'il abandonne.
Là,
j'ai entendu certains bruits là-dessus. Là, j'ai bien peur qu'arrivé à un certain moment, il jette l'éponge.
Alors, il a relativisé. Je sais à quoi tu penses, Roland. Il avait dit effectivement, dans une déclaration un peu fracassante, que s'il devait être opéré une autre fois à la cheville, il envisageait d'arrêter complètement le foot. Il a un peu relativisé ses propos-là depuis, mais c'est sûr que bon, on en saura plus demain sur le diagnostic exact. Mais si c'était à nouveau une longue absence, ça pèserait lourd aussi pour son moral, c'est clair.
On rappelle qu'il a que 22 ans.
C'est pour ça. Je peux comprendre la lassitude de la blessure, mais quand tu reviens comme ça et que tu as la capacité, en n'étant pas à 100%, de faire des matchs de ce niveau-là dans une équipe dans une telle équipe, bon, tu peux te dire que tu peux te raccrocher quand même à quelque chose.
Mais bon, c'est quand même dommage, parce que bon, c'est un sacré joueur pour le Bayern, mais pour l'équipe de France.
Non, mais si on rappelle, enfin là, il y a une page qui se tourne en plus au Bayern, David. Ribéry, Robben, enfin voilà.
Si tu regardes la composition de départ, la mutation est en marche.
Bah oui.
Voilà, exactement. Oui, si on regarde sur le match du soir, c'est sûr qu'en plus, il y avait trois joueurs ce soir qui ont été vraiment un motif d'espoir pour le Bayern en vue du match de Liverpool dont tu parlais, Nico. C'est Lewandowski qui a encore une fois été bon. Il a frappé, je crois c'est une tête d'ailleurs, sur la transversale. Il a été tout à fait bon au poste de numéro 9. Goretzka qui a aussi été très très un magnifique joueur, qui a été bon aussi au milieu de terrain à côté de Thiago et de Rames, qui eux ont été un peu moins bons. Et puis Kingsley Coman, c'était vraiment les trois joueurs positifs ce soir et qui pouvaient donner un motif d'espoir, notamment offensif, pour le match de mardi contre Liverpool, parce que alors, par ailleurs, en défense, c'est compliqué. Hein. Le Bayern, j'ai fait les petits calculs depuis 2019, 10 buts encaissés depuis la nouvelle année, alors que vous savez que la trêve nous a emmené fin janvier en Allemagne, 10 buts encaissés déjà, c'est énorme, et il n'y a pas eu un seul match du Bayern en 2019 où ils n'ont pas encaissé au moins un but. Donc là, il y a vraiment un motif d'inquiétude pour Kovac, même si ce soir, il avait aligné aucun milieu défensif de métier, hein, puisqu'il y avait Thiago, donc, Rames, Rodriguez dans l'axe, et puis Goretzka à ses côtés, mais c'est quand même inquiétant pour la défense du Bayern.
Ouais, on rappelle qu'Augsbourg, ils sont 15e en plus,
de carence tactique.
Tu penses quoi, David, du repositionnement de Kimmich arrière-droit?
Alors, il veut trop en faire. Cet excellent jeune, il veut trop en faire. Aujourd'hui, il a pris aussi des responsabilités. C'est un peu un leader. Il va s'exprimer toujours devant le micro.
Ma question va dans le sens où tu le préfères pas quand même au milieu de terrain.
Bah avec le nombre de kilomètres qu'il parcourt par match, ça peut être effectivement très intéressant au milieu de terrain, parce que c'est un joueur qui se projette beaucoup, qui est passeur décisif à de nombreuses reprises. Non, il est bon aussi sur le côté, mais c'est un peu comme
je me souviens de sa suprématie quand on a regardé le match de l'équipe de France, notamment contre l'Allemagne, la suprématie qu'il a imposée au milieu de terrain laissait présager qu'il allait justement il allait s'imposer à ce poste-là dans son club.
Eh ben oui, mais le problème, c'est que l'entraîneur Niko Kovac, il a affaire à une guerre des égos au milieu de terrain. C'est-à-dire que tu as Rames, qui est certes un peu plus avancé, mais je les ai cités. Il y a Goretzka, il y a Javi Martinez aussi qui est entré en fin de match. Il y a Thomas Müller qui joue maintenant derrière l'attaquant aussi. Et du coup, il faut ménager un peu les égos. Et Kovac ne s'en est pas caché. Il a dit, Kimmich, pour moi, ce sera l'arrière droit parce que ça l'arrange. Ça l'arrange, ça le permet de le faire jouer alors que il n'y a pas une concurrence énorme puisque Rafinha se contente du poste de remplaçant.
Tiens, et parle-nous un peu là de ce huitième de finale à venir là, face à Liverpool. Là. Est-ce qu'il y a un peu d'inquiétude justement lié à ce résultat? Tu parlais de la défense qui prend des buts. Là, ils en prennent deux face au 15e de Bouli. Enfin, c'est quand même pas top ça.
Très clairement, pour vous donner un peu le son de cloche aussi en Allemagne, on craint vraiment. Le pressing de Liverpool, on craint vraiment la vitesse de Liverpool et j'ai pas besoin de trahir de secret en vous disant que les confrères à Munich, les journalistes, ils se disent si ça joue comme ce soir, certes le Bayern a gagné à l'extérieur, certes il a marqué 3 buts, si ça joue comme ce soir, ils vont prendre l'eau contre Liverpool, donc il y a clairement une inquiétude et dans le club on n'est pas ultra serein non plus. Alors on est content de s'être rapproché ce soir à 2 points de Dortmund qui va jouer ce week-end, qui va avoir l'occasion de reprendre de l'avance, mais ça c'est un peu le comptable qui cache la forêt, parce que le Bayern, certes marque des buts, je le répète, mais alors en défense, c'est très très compliqué en ce moment. Quoi.
Franchement, c'est certainement l'un des huitièmes de finale les plus sexy qu'il va y avoir, hein, ce match entre le Bayern et le Dortmund.
Je le vois pas passer. Hein.
Le Bayern?
Ah oh ouais.
Pour toi, il y a pas match? Attention, Liverpool. Liverpool, ils sont obsédés par le championnat aussi, Roland.
Ouais, mais ça fait rien. Je vois Liverpool supérieur. Mais tout à l'heure, on va regarder ça comme les passionnés que nous sommes. Mais si tu me demandes un pronostic, tu m'as même pas demandé, je te le donne. je vois Liverpool se qualifier.
Ludo.
Roland, ouais. Tu as quand même des cadors côté Bayern qui vont vouloir briller, les Rames, les Thiago.
Oui, d'accord.
Ça va être important quand même.
La blessure de Coman, je trouve quand même que ça, c'est le pépin.
Oui, c'est une mauvaise nouvelle.
Non, ça va être une opposition presque de style entre une équipe qui aime monopoliser le ballon, imposer son jeu, une équipe qui, dès qu'elle récupère le ballon, prend des accès qui sont directs, qui joue sur sa rapidité, sa vélocité. Ouais, c'est ça. Je rejoins David là-dessus. Je donnerai pas. Je le donne Liverpool favori, mais c'est peut-être allez 55-45 parce que le Bayern, il faut justement se méfier de ces joueurs qui ont une expérience qui savent justement aussi se sublimer dans ce type de rendez-vous.
Alors on rappelle victoire du Bayern donc ce soir 3-2 à Augsbourg, le Bayern qui revient à 2 points de Dortmund qui jouera dans 3 jours à Nuremberg. Merci David d'avoir été avec nous.
Oui, lundi soir.
Merci.
Tout petit truc. Ouais. Un dernier mot très vite. Franck Ribéry est entré. Hein, il a remplacé. Je sais plus d'ailleurs quel joueur. C'est plus c'est Gnabry ou quoi. Il est entré en fin de match. Franck Ribéry. Il est apparu assez frais. Et ce sera quand même une vraie option pour Kovac mardi soir en Coupe d'Europe.
Très bien. Merci. Bisous, David.
Salut, David. T'as gymnastique cric-mic après ou comment ça se passe?
Synchronisé.
Non, pas cette semaine.
Ciao David. Simone Rovera sera avec nous dans quelques instants. La Juve qui elle s'est baladée face à Frosinone. La Juve qui va avoir un huitième de finale face à l'Atlético de Madrid. Ça aussi, ça s'annonce sexy, messieurs. À tout de suite avec Roland et Ludo Bragnac pour la suite de l'After.
RMC Football Show. L'After Foot. Nicolas Villas.
En compagnie de Roland Courbis, de Ludovico Bragnac et de Simone Rovera qui nous a rejoint. Ciao Simone, con la cravate.
Ciao, c'est la bonsoir.
T'es élégant ce soir toi.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que je savais pas que t'étais là et donc...
La San Valentina. C'est les restes de la Saint-Valentin ça. Non, on bouffe le reste quoi.
C'était avant hier, c'était quand la Saint-Valentin?
C'était hier, bah arrête, mais c'est quoi ça?
Je me souviens même pas.
C'est pas un canard toi?
Non.
Pas romantico.
Non.
Arrête de caresser le micro, ça fait du bruit, toi, je t'ai déjà dit. Depuis le début de l'émission,
ouais,
là.
Ouais, mais tu me parles
de Saint-Valentin.
Tu me parles de Saint-Valentin, ça m'émoustille un peu, tu vois.
Je vois ça, ouais. Je te rappelle quand même les deux résultats de ce soir de Ligue 1. La victoire de Lyon 2-1 face à Guingamp et Nîmes qui bat Dijon 2-0, pardon. Et puis, il y avait un match également en Italie, 24e journée de Serie A. Mercredi, la Juve va jouer face à l'Atlético de Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions. Et la Juve a cartonné Frosinone 3-0 ce soir. Avec un très beau but de Dybala d'ailleurs.
Magnifique le but de Dybala. On a eu presque une Massimiliano Allegri, comment dire en France, Madame Irma. Oui. Il a tout prévu. Il a dit que les stades de Dybala.
C'est un voyant lui, Allegri.
Bien sûr. C'est un voyant. Non, parce que faut faire attention. Il avait dit Dybala, il est un joueur extraordinaire, mais il n'a pas des stats. Pourquoi pas demain? Bah, après, c'est pas compliqué. Frosinone, c'est avant-dernier. Mais les buts de pied gauche, c'est extraordinaire. Sur une passe de Cristiano. Ah bon? Cristiano a marqué un but, bien sûr. On va pas les dire. La chose très sympa sur Cristiano, qui marque un but à la 63e minute, à la 64e, il sort. C'est-à-dire, le match de Cristiano terminé.
Ses buts, il peut sortir.
Terminé après les buts. S'il mettait lui le but à la 2e minute, je me demande de ne pas sortir à la 3e. Trois choses à dire sur ces matchs. Les retours gagnants de Bonucci et Chiellini, les deux étaient sur le terrain, donc on avait des doutes il y a quelques semaines. On rappelle un torse à la cheville gauche pour Bonucci et problème musculaire pour Chiellini. Les deux sont revenus. En théorie, il devait jouer que Bonucci. Par contre, Chiellini avait des bonnes sensations cet après-midi, donc a dit bon, on va essayer. Il a joué titulaire, pas des soucis, donc ils sont très bien récupérés pour l'Atlético Madrid et c'est la meilleure des nouvelles. Dybala, donc en lutte pour une place titulaire avec ses buts, il a montré quand même d'avoir des qualités très très importantes. Et après, moi j'ai vu entre tous les joueurs une Khedira qui est en train de vraiment monter en puissance. On sait très bien qu'il a des qualités extraordinaires, c'est un joueur qui a dépassé la 30 ans.
Fragile,
mais quand il va bien, on voit que la Juve a une autre force offensive. Un peu moins défensive parce qu'il y a toujours ces doutes, comme j'expliquais lundi soir dans l'after, c'est compliqué de mettre Khedira et Dybala ensemble. Ce soir, il était là, mais c'était la deuxième fois de la saison. Parce que si Khedira, qui c'est un joueur qui cherche beaucoup de rentrer dans la surface, qui a des propositions offensives, est là, il faut quelqu'un qui couvre un peu plus sur ses couloirs. Donc, on a vu la compo sur Hermes Pornour. Donc, si Khedira est là sur ses côtés droits, il y a Dybala et il faut faire attention. Ce soir, il y avait aussi Cancelo. Ça commence à devenir très offensif d'un côté.
Qu'est-ce qu'il y a, Ludo? Je te vois, tu vas intervenir, non?
Non, mais je me demandais, je regardais un peu. Blaise Matuidi, repos.
Non,
il
va, ce soir au repos.
Ouais, d'accord, ouais.
Ce soir au repos, Pjanic aussi au repos. Mm-hmm. Deux joueurs très importants. Alexandro est suspendu. Il y a un doute très intéressant pour le match face à l'Atlético. Est-ce qu'Allegri va jouer? C'est même Allegri doit encore choisir. Va jouer avec Cancelo et Alexandro. Mm-hmm. Ça voudrait dire avoir deux latéraux très très offensifs.
Sinon, il mettrait qui?
Deschilieu, il a fait un très beau match ce soir. Deschilieu a fait un très beau match. Et quand il a changé quelque chose à la fin de match, Massimiliano Allegri, il a joué à 3. Il a fait sortir Bonucci, il est rentré Caceres. Cancelo est passé de côté droit au côté gauche, mais un peu plus haut. Mmh. Et Deschilieu a fait les troisièmes centrales. Donc, comme ça, c'était un peu pour essayer quelque chose de nouveau sur la fin de match. Je pense pas et je crois pas qu'on verra un défense à 3 face à l'Atlético.
Et quel effectif là, je comprendrais pas que minimum une finale de Ligue des Champions là, hein. Sinon bon.
Écoute, je l'ai dit du début de la saison, après il faut le voir arriver, l'Atlético c'est
compliqué. Tu vois la profondeur de banc, les joueurs, la qualité des joueurs sur le banc.
Et t'avais encore deux blessés des très très haut niveau ce soir comme Cuadrado et Douglas Costa.
Douglas Costa reprend l'entraînement dimanche. C'est quoi ton avis, toi, sur ce huitième de finale? L'Atlético, si on devait schématiser, caricaturer un peu, c'est un peu une équipe italienne, quoi. C'est très tactique, c'est très très solide, très...
Moi, je trouve que c'est l'équipe qui ressemble plus à la Juve en Europe. Ou la Juve, c'est l'équipe qui ressemble plus à l'Atlético. Ce sont des équipes qui ont même les parcours, c'est incroyable. Les deux finales perdues sont vraiment similaires dans la façon de jouer et dans cette quête de la Ligue des Champions. Bon,
mais du coup, tu le sens comment, ce match?
Moi, je vois, si Cristiano, il va bien... Et si Bonucci et Chiellini ils sont au top niveau, je vois la Juve avantagée. Je pense aussi que la Juve peut aller gagner mercredi soir. Après, il y a un retour de Diego Costa qui va beaucoup influencer les matchs de Bonucci et Chiellini s'il est titulaire. Et ça va ouvrir des espaces pour Griezmann. Il y a un équilibre important, mais il n'y a plus de joueurs décisifs. Avec tout le respect pour les grands joueurs de l'Atlético, il n'y a plus de joueurs décisive dans la Juve pour moi que dans l'Atlético, et ces matchs-là c'est tellement équilibré que c'est un éclair de génie qui pourrait les résoudre. Et sur ces matchs-là, il y a Cristiano, il y a Griezmann, la balance pour moi c'est encore un peu plus du côté de Cristiano que du côté de Griezmann. Et derrière t'as Godin, t'as Lucas Hernandez s'il revient, je sais pas s'il revient, il y a Savic, mais t'as Bonucci, Chiellini. Il y a un vrai équilibre.
Ouais, il y a un match, quoi. Juste pour faire quelques petites infos du jour, il y en a une qui concerne l'Italie justement. Il y a Mancini qui s'est exprimé sur Mario Balotelli. Il a fait une interview, il a donné une interview à la Gazzetta dello Sport. Il a dit: on espère qu'il va continuer à beaucoup marquer parce que tout dépend de lui. À 28 ans, il est encore en pleine possession de ses moyens. Je l'ai géré pendant de nombreuses années et cela ne me pose pas de problème. C'est à lui d'avoir la tête à l'endroit comme il ne l'a jamais eu ces dernières années pour mériter d'être convoqué. C'est quoi là? Ça revient l'idée là d'un retour de Balotelli en équipe nationale?
Il est jamais parti cette idée. On a commencé cette Europa League. Cette Ligue des Nations face à la Pologne avec Mario Balotelli. Ouais. Roberto Mancini a toujours adoré ses joueurs. Là, c'est Mario Balotelli qui recommence à jouer, qui recommence à marquer des buts. C'est une saison un peu compliquée pour les avant-centres italiennes. Même si dans tous les autres zones du terrain, t'as des jeunes joueurs intéressants comme Chiesa, comme Zaniolo qui sort, t'as un super Verratti cette saison. Mais devant, t'as Immobile qui n'est pas une grande saison et Belotti non plus. Donc pourquoi pas?
Alors dimanche 15h, il y a Bordeaux-Toulouse. Sachez que le TFC a prolongé aujourd'hui son gardien remplaçant Mauro Goycochea jusqu'en 2021. Du côté de Bordeaux, Caramo, qui était mis à pied par le club, a repris l'entraînement cet après-midi. Décision de la commission de discipline de la FFF. Alors sachez que Tourelle a pris deux matchs de suspension avec sursis après son exclusion face à Villefranche. C'était en Coupe de France. À Lille, Soumaoro a pris quatre matchs pour son tacle face à Rennes. Alors il a déjà purgé un match face à Guingamp, mais il manquera les matchs face à Montpellier, Strasbourg et Dijon. Et Galtier prend trois matchs, dont un avec sursis pour sa contestation. Et d'ailleurs, il a réagi. Christophe Galtier aujourd'hui en conférence de presse à sa sanction. Il n'était pas vraiment content, Christophe Galtier, aujourd'hui en conférence de presse.
Hier, quand je suis rentré en commission de discipline, évidemment que j'avais toute la commission devant moi et son président. au sein de discipline de la fédération, et on m'a dit, monsieur Galtier, soyez à l'aise, vous rentrez pas dans un tribunal. Vous êtes pas là pour être jugé. Alors, c'est un peloton d'exécution. J'aurais préféré qu'on me dise précisément dans où j'allais que plutôt me mentir et faire des grands sourires et dire, on vous a compris, et elle, et 24 heures après, au moins de 24 heures après, on vous sanctionne aussi lourdement. Je trouve qu'elle est disproportionnée.
Ouais, forcément, il est pas content, il est pas d'accord, ouais. Christophe Galtier.
Oui, bah c'est toute la distinction entre la Ligue et la Fédé, et donc, c'est toute la distinction entre la Ligue et la Fédé. La Ligue est beaucoup plus clémente, et moi j'en ai fait les frais aussi en Coupe de France. J'ai eu un épisode malheureux avec Monsieur Chaperon, avec Yohan Cabaye à l'époque. On avait pris aussi pareil 3 ou 4 matchs, donc c'est le tarif. Mais ça aide en rien, c'est-à-dire que cette coupe est une coupe qu'il faut valoriser, je trouve, au détriment de la Coupe de la Ligue. Et si à chaque fois qu'il faut faire jouer les grandes équipes qui ont le courage de mettre contre les plus petits leur 11 titulaire, et que au moindre problème tu peux prendre 4 matchs sur une intervention, bon voilà, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qu'il faut
revoir. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a vraiment d'harmonisation au niveau des sanctions.
Non, ben non, aucune.
C'est vrai que par moment, j'ai du mal à comprendre.
Les gars, merci d'avoir été avec nous, messieurs dames. Merci beaucoup. Merci Roland. Ciao. Merci Ludo. Merci beaucoup Simonet. Voilà, merci Quentin Barbeur. Merci également Jérôme Thomas. Nous, on se retrouve demain pour l'after.
Merci à Simonet qui a été très pertinent.
Ah, il a été très très bon.
Voilà.
La cravate lui réussit pas mal, ouais. À Simonet. Bah, tu mets des cravates, t'es encore meilleur.
Je sais. Ça ne suffit pas d'être beau, il faut aussi être bon.
Ouais, c'est vrai. Toi, t'es beau et t'es bon, d'ailleurs.
Bravo.
On vous rappelle, hein, victoire de Nîmes 2-0 ce soir face à Dijon, victoire de Lyon 2-1 face à Guingamp. Affiche de la 25e journée de Ligue 1. Bonne soirée, à demain. Ciao, ciao.
RMC Football Show, l'After Foot.